Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
Quand tu nais avec une personne dysfonctionnelle et que dans son propre mécanisme interne, son objectif c'est de survivre et donc pour survivre il faut qu'elle détruise les autres, y compris son bébé et son enfant. Bah en fait c'est comme si j'étais né addict à l'héroïne quoi. Tu vois, l'affection de l'autre, je suis né avec cette dépendance à la naissance.
Notre invité a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Une mère et un beau-père défaillants, parfois violents, un père alcoolique et absent, et c'est pour ne pas lui ressembler que Gabriel se tient à distance de l'alcool mais aussi des drogues pour lesquelles il n'a aucun attrait pour le moment. Mais la vie d'étudiant est rythmée par des festivités le week-end dans lesquelles il boit un peu mais de plus en plus. Il organise des événements de grande ampleur pour un étudiant de 18 ans et devient très vite populaire. Sa cellule familiale bancale ne lui apportant aucun réconfort, il essaie tant bien que mal d'appartenir à un milieu bourgeois dont il ignore les codes, mais son désir d'être aimé et accepté aura l'effet pervers de faire de lui la cible de harcèlement et de trahison. Il n'a alors plus rien à quoi se raccrocher et décide de prendre son premier trait de cocaïne pour déconnecter d'avec sa souffrance. Et ça fonctionne. Alors il recommence, encore et encore. 7 ans plus tard, il en est à 3 grammes de cocaïne et 2 bouteilles de rhum en 48 heures, parfois seul et sans sortir de sa chambre. C'est lui qui l'écrit. À cela s'ajoutera la prise d'ecstasy, de MDMA, de cannabis et de tabac, la panoplie de ceux qui fuient leur souffrance. Mais en mars 2019, il décide de tout arrêter. Quel est l'événement qui a déclenché cette prise de conscience? Comment le sport, les témoignages et l'écriture peuvent réanimer une âme qui s'était presque éteinte? Gabriel Raskinet nous donne espoir en la psychologie, en l'altruisme, en la sobriété. Il rend cela accessible, nous tendant la main, des clés au bout des doigts. Il crée un podcast au titre aussi simple que « Bonjour » ou plutôt « Au revoir ». Sortir de l'addiction. La dépendance affective, l'emprise, la cocaïne, le cannabis, la MDMA, les extas, Gabriel parle librement de tout dans l'unique but de rendre son passé utile. Merci Gabriel d'être venu nous partager ton expérience dans Contradiction.
Merci beaucoup Rose pour cette introduction.
Je suis contente de te recevoir. On s'est rencontrés sur un festival de santé mentale.
Exact.
Ouais. Facette Festival.
C'est ça. Moi je savais que tu venais, mais à mon avis l'inverse n'était pas vrai.
Non, je crois pas que je savais, mais j'étais fort heureuse.
Mais on a été présenté par une personne qu'on connaît en commun et c'était très chouette parce que moi j'avais écouté ton podcast à l'époque où j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux et puis c'est devenu une évidence en fait de faire le mien quand je me suis dit mais il y a déjà des gens qui sont sur cette voie là et ça m'a juste remis devant un format que je connaissais et donc je l'ai écouté jusqu'à ce que je lance le mien pour ne pas avoir trop, tu vois, de ne pas trop imprégner des gimmicks à toi ou du format et du style, mais ton podcast a une signification aussi symbolique dans ce parcours-là, puisqu'il fait partie des petites choses qui étaient dans mon esprit à l'époque où j'ai commencé à prendre la parole et pendant le moment où j'ai construit le podcast, en tout cas dans ma tête.
Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'addiction ?
Ma définition de l'addiction, c'est une bonne question parce que j'en ai pas vraiment. À part celle qu'on connaît tous, mais moi je dirais que l'addiction, c'est la conséquence d'une utilisation trop intense et rapprochée d'un outil qui m'aidait à m'échapper de la réalité. C'est-à-dire que pour moi, c'était la cocaïne, mon produit de choix. J'ai jamais eu de dépendance à l'alcool, même si j'en buvais beaucoup. Par contre, à partir du moment où j'ai vu que ça faisait effet, comme ça marchait tellement bien pour résoudre le problème dans lequel j'étais, j'ai continué. Et en fait, moi, j'ai traversé un tunnel qui a duré 7 ans sans me rendre compte que j'étais dans l'addiction, mais en étant mal, en recommençant mes semaines, le même schéma que la semaine d'avant. Mais pour moi, c'était totalement intégré de consommer de la coke, de faire des week-ends de 3 jours sans dormir, etc. Et c'est seulement que des années après que je me suis rendu compte que j'avais traversé l'addiction, en fait.
Et comment ça a commencé, en fait ? Par exemple, tu dis que je buvais beaucoup, mais je n'étais pas dépendant à l'alcool. Ouais. Comment on sait ça ?
Parce que physiquement, je n'ai jamais déclenché de dépendance à l'alcool. Ah oui. Donc moi, je peux faire 2-3 jours, même des festivals ou de boire de l'alcool sur des périodes rapprochées de manière intense. Le jour où ça s'arrête, ni mon esprit ni mon corps ne réclament de l'alcool. Je n'ai jamais déclenché ce truc-là. Par contre, la cocaïne, je vois la différence avec la cocaïne. La cocaïne était dans ma tête, matin, midi et soir, pendant ces 7 années. Mais quand je n'en consommais pas, je me demandais quand j'allais en consommer. Et quand j'en consommais, je me demandais quand il n'y en aura plus,
à
quelle heure
est-ce que
je vais en... Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois, donc, je vois vraiment la différence entre les autres molécules et leur impact sur mon corps et mon esprit et la cocaïne.
Alors toi, tu viens de Bruxelles ?
Je suis liégeois, Liège, mais je vis à Bruxelles pour l'instant. Ouais.
Donc c'est à Liège que tu as 17 ans et que tu es anti-drogue, c'est ça ? Quand ça commence au début, où il y a quand même ce truc-là de dire « je suis anti-drogue ». Comment est-ce qu'on passe de anti-drogue à cocaïnomane ? Comment s'est passé la première fois et surtout pourquoi ?
Je suis pas non plus militant anti-drogue, c'est-à-dire que quand je suis en soirée, je me balade pas en disant vous faites de la merde et moi je suis mieux que vous. C'est plutôt la drogue, c'est pas pour moi et j'en ai pas besoin, donc faites ce que vous voulez, je vous respecte, mais ne m'en parlez pas. Et donc, dans ce contexte d'organisation de soirée, tout le monde est au courant que moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont aller faire la file aux toilettes ou dans les backstage, qui vont, tu vois, consommer des trucs.
Donc, tu organises des soirées déjà, hein ?
Ouais, c'est ça, ouais. Des soirées où, pour l'époque, c'était des énormes soirées. On faisait entre 2 et 3 000 personnes. Moi, j'avais 17 piges. Donc, je passe des après-midi avec Orelsan. On fait venir des DJ comme Afrojack. Enfin, pour l'époque, c'était des énormes artistes. Et c'était ça le contexte dans lequel je suis. Et c'est cette soirée-là où... Je passe 2 heures avec le mec qui a écrit l'album Perdu d'avance, que j'ai écouté en tant que jeune ado. Et le gars, je l'ai devant moi, qui vient à ma soirée, je l'accueille à Liège, je vais les aider avec son manager à aller chercher des clopes et tout. Et moi, dans ma tête, c'est, tu vois, je vis dans un film, quoi. Je vis dans un film. Et cette soirée-là est juste, on fait ça le comble, l'ambiance est énorme. Et donc, il y a cette euphorie de l'organisation d'événements, plus la situation, cette envie de fuite en avant vers l'alcool. En fait, déjà les soirées, déjà tout ce qui brillait, c'était une manière pour moi d'aller vers autre chose, de combler les choses, le vide que j'avais à l'intérieur. Et ce soir-là, au pic de la soirée, je crois 2 heures du matin, eh bien, je vois 2 gars que je connaissais derrière un backstage, enfin un peu mal foutu derrière une scène, et je leur dis ouais les gars, vous faites quoi, naïvement, en espérant qu'ils me disent t'en veux. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Je leur ai demandé et ils étaient tout contents, évidemment, de me proposer.
Ah oui.
pas de me mettre dedans, mais j'étais l'organisateur de la soirée qui demandait à avoir quelque chose, tu vois. C'est pour eux, c'était il y avait ce petit truc, quoi. Donc ils me l'ont fait aisément. Et puis, j'ai rien senti cette soirée-là. Enfin, j'ai senti que j'étais éveillé, mais j'ai pas eu les effets de la drogue, tu vois. Donc, parce que j'avais beaucoup bu aussi. Quand je suis rentré chez moi à 7-8 heures du matin le lendemain, j'ai pas su dormir, mais j'ai pas imprimé la sensation et le, tu vois, l'impact. J'ai pas connecté avec la molécule ce soir-là. Mon cerveau, oui, mais je le comprendrai seulement un an plus tard, quoi.
Et quand tu dis ça a fonctionné, ça a fait son job. Qu'est-ce que tu voulais à ce moment-là apaiser, puisque justement, comme tu dis, tout allait bien, tu étais en train de devenir populaire et de réaliser un peu un rêve aussi. C'est quoi ton... Parce que je l'ai dit un peu en introduction, mais ce passif, cette enfance, c'est-à-dire c'est un manque d'amour ou c'est de la négligence ou ouais, de la maltraitance?
C'est quand même plus que ça, ouais, c'est une maltraitance. C'est de l'ordre de la maltraitance psychologique, donc c'est moins facile à expliquer que j'ai pas été un enfant battu, par exemple, tu vois, je me range pas dans cette catégorie-là.
Dis quand même, mon beau-père, la main légère.
Ouais,
je trouve que c'est quand même une litote, tu vois ce que c'est une litote? On est en train d'amoindrir quelque chose qui était très grave, non? Quand tu dis un beau-père à la... qui n'a pas la main légère.
À la main légère, pardon. T'as raison. C'est une tendance que j'ai, et c'était probablement un outil aussi de protection pour moi, de peut-être minimiser des choses, parce que tu sais, quand tu vis des choses en tant qu'enfant qui sont aussi, qui n'ont tellement pas de sens, qu'à un moment donné, pour continuer de tenir debout, il faut que tu leur donnes une signification, quoi. Et donc, t'as raison, c'est vrai que je fais encore ça de temps en temps aussi, mais je fais la différence entre, tu vois, un enfant qu'on va taper à coups de ceinture, avec des coups de poing, qu'on va jeter contre les murs, et moi où c'était plutôt de l'humiliation en fait par les gestes, c'était une tape derrière la tête, c'était attention maman, est-ce que tu l'as vu, c'était plutôt, tu vois, de l'ordre de la stratégie d'humiliation plutôt que des coups. Les coups n'arrivaient que très rarement, ma mère m'a tabassé une fois et une deuxième fois un peu moins fort, mais mon beau-père qui avait pas la main légère, c'est pour dire elle était tout le temps là, quoi, tu vois, c'était sa manière de garder le contrôle sur moi, et donc c'est pour ça que je fais la différence, moi, dans ma tête, entre...
Une menace un peu sur toi tout le temps.
Oui, c'est ça, c'est le principe même de l'emprise, quoi, c'est on a du pouvoir et toi tu restes à ta place, et ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça allait, ouais.
Donc c'est de l'emprise, ouais, pour
c'est
toi,
ça.
C'est ça.
Bah, de l'emprise, c'est la définition même de l'emprise psychologique, quoi, ouais.
Et est-ce que y a un lien avec la dépendance affective ?
Bah ouais, moi je fais des liens évidents entre le mécanisme de l'emprise, la dépendance affective et la drogue. C'est-à-dire que les mécanismes, comme moi je les ai ressentis, la manière dont les choses ont agi avec moi, j'y vois le même chemin, quoi. C'est juste que c'est en parallèle, c'est pas la même chose. La maman, c'est la personne qui, la maman et le foyer, quand tu viens à la naissance, ils sont censés te combler tes besoins d'affection, de sécurité, les besoins primaires d'un enfant. On est un animal, un mammifère qui a besoin de dizaines, voire d'une quinzaine d'années pour devenir indépendant, contrairement à un éléphant, une girafe, etc. Donc nous, on est dépendants affectifs par nature, parce qu'on doit aller demander et aller chercher la réponse à ses besoins. Et quand tu nais avec une personne dysfonctionnelle et que dans son propre mécanisme interne, son objectif c'est de survivre, et donc pour survivre il faut qu'elle détruise les autres, y compris son bébé et son enfant, en fait c'est comme si j'étais né addict à l'héroïne, quoi, tu vois. L'affection de l'autre, je suis né avec cette dépendance à la naissance.
Waouh. Donc premier trait, tu ne ressens pas immédiatement donc le bienfait de la molécule, comme tu dis,
ouais,
t'en rendras compte un peu plus tard, mais ça a anesthésié quelque chose, ça a apaisé.
Non, bon,
déjà quand tu dis de 19 à 26 ans que tu as consommé cocaïne, MDMA, ecstasy, cannabis, tabac, alcool, est-ce que tout ça vraiment tu sentais l'apaisement ou juste l'anesthésie?
C'était plutôt anesthésie et me mettre dans un autre état. Et pour l'alcool et le cannabis, c'était plutôt c'était plutôt de l'ordre récréatif d'aller autre part que là où j'étais, mais s'il n'y avait pas un objectif précis, la cocaïne, c'était me faire mal. Il fallait que ça fasse mal et que ça fasse plus mal que ce que je vivais déjà, parce que il fallait que je me détourne de cette douleur que j'arrivais pas à expliquer, pas à comprendre, puisque moi, cette histoire d'emprise et le ciel m'est tombé sur la tête l'année de mes 25 ans. Donc, j'ai commencé à consommer à 19, et donc pendant toutes ces années de consommation, je continuais à... C'était un cercle vicieux, une boule de neige qui se construisait. Plus je consommais, plus j'allais mal, plus je comprenais rien à ce qui se passait chez moi. Et donc, tu vois, j'étais...
Est-ce que ça a continué pendant que toi, tu consommais? T'habitais chez eux encore?
Ouais, j'habitais toujours chez ma mère à l'époque.
Et tu vivais ça au quotidien?
Bah, je vivais ça au quotidien. En grandissant, bah, les choses se sont passées différemment. À partir d'un moment, les personnes du foyer ont commencé à comprendre les mécanismes mes mécanismes de défense. Ils voyaient bien que lorsque
ça pétait...
De défense,
t'as dit, ou de défense ?
De défense.
Ah.
Ouais, de défense.
Non, mais parce que c'est aussi de défense.
Ouais. Bah oui, d'une certaine manière. Mais ce qu'ils voyaient, c'est que quand ça pétait à la maison, qu'on m'attaquait ou qu'il se passait ce qui se passait, quand j'ai eu l'âge d'avoir ma voiture, bah, je me barrais et je sortais. Je faisais quoi? Je sortais, j'allais boire. Et donc, du coup, comme il y a vraiment quelque chose de pervers dans la personnalité de ces gens-là, je me suis rendu compte par après qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. S'ils voulaient un mercredi que ça pète à la maison, bah, en fait, moi, la réponse, c'était aller me droguer et aller consommer de l'alcool. Et donc, en fait, j'étais juste comme comme un putain de rat dans une cage qui où on ouvre la porte et en fait on lui ouvre la porte mais vers l'enfer, quoi, tu vois.
Il le savait, tu veux dire, il savait.
Bah, au fond d'eux, ouais, parce que voilà, je peux pas rentrer non plus trop dans les détails sur la personnalité de ces gens-là parce que c'est pas eux le sujet, mais moi j'ai compris par la suite, oui, j'ai tout reconstitué dans ma tête et j'ai vu d'autres personnes subir la manipulation, le chantage, la perversion, etc. de ces gens-là. Donc oui. À un moment donné, c'était plus juste de l'intuition ou plus juste de la perception. C'était un recoupement de faits relié aussi avec des livres que je lisais, la théorie, etc.
Et tu dis à 25 ans, je suis tombée, j'ai pris le ciel sur la tête. C'est, ouais. C'est-à-dire, c'est là où tu as commencé à. Tu as voulu arrêter. Il y a eu un déclic, c'est une soirée où tu penses que tu as été droguée à ton insu.
Bah en fait, le jour où le ciel me tombe sur la tête, c'est quand je réalise que j'ai été manipulé par ma maman pendant autant d'années. Quoi.
Ça, c'est le moment... Est-ce que c'est parce que tu as arrêté que tu as réussi à prendre conscience ?
Non, en fait, j'arrête un an après ça.
Ah, okay.
Ce qui se passe, c'est que moment-là, ouais. Je suis pour la 4e ou 5e fois en couple avec une meuf. Et pour la 4e ou 5e fois, le schéma se répète et moi, je finis mes lessivés, je suis en angoisse totale. La relation n'est pas du tout équilibrée. Je me dis, mais il y a un truc qui cloche, quoi. La vie va pas. Enfin, c'est pas possible que les relations humaines fonctionnent comme ça. Et je commence à me poser des questions à partir de ce moment-là. Et en fait, mes questions commencent à se tourner plutôt autour de mes relations et avec les femmes dans un premier temps. Et en fait, moi, je veux pas voir la relation avec ma mère parce que c'est trop gros, c'est trop compliqué à assumer. C'est ça. Le jour où ça me tombe sur la tête, c'est après un an, c'est après avoir quitté cette fameuse fille où pour la première fois, moi, je pose mes limites. Limite vis-à-vis d'une femme et vis-à-vis des gens dans la vie en général. Et c'est après ça que je me dis, mais en fait, le schéma répétitif que je vis avec les filles, c'est celui qui existe depuis que je suis né avec ma maman, quoi. Et en fait, je lis un premier livre où je lis mon histoire, mais j'ose pas aller plus loin dans le livre parce qu'au bout de la 10e page, c'est trop difficile, mais je me rends pas compte de pourquoi c'est difficile de le lire.
C'est quel livre ?
Donc je le referme. C'était 101 questions, je crois, sur les pervers narcissiques. Et du coup, un sujet qui traite de sujets là, dont on parle des fois, mais du point de vue de l'homme qui maltraite la femme.
Souvent l'inverse.
Et moi, je me dis, mais relations mère-fils et tout, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Déjà, on n'en parle pas. Est-ce que j'ai bien raison ? Toutes ces questions-là. Et puis, à un moment donné, je me rends compte que oui, c'est bien le cas. Et c'est à ce moment-là que le ciel me tombe sur la tête parce que moi, c'est 25 années. C'est comme si c'est pas exactement la même chose. Hein, mais pour se donner une représentation. C'est comme si j'avais grandi 25 ans dans une secte, quoi. Tu sais, avec un discours, avec une idéologie, avec une personne, avec des convictions, etc., qui se met à un certain endroit. Et puis, en fait, c'est le château de cartes qui s'effondre.
Mais qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux à ce moment-là ?
C'est mon cerveau qui tourne en boucle. C'est l'écriture que je commence à avoir. Et c'est commencer à écrire tous les faits, tous les trucs, toutes les étapes, et à me dire, mais non, en fait, là, on m'a dit que c'était pas vrai, que cette partie-là de ma vie, ça s'était passé comme ça, qu'à l'école, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, je commence à me rendre compte de tous les mensonges. C'est mon esprit et mon intuition qui commencent à raccrocher à la réalité. C'est à ce moment-là que je prends des dispositions pour me couper net de ma maman et du reste de la famille. Parce que tout le monde fonctionnait pareil. Donc pour ma survie, il fallait que je parte. Et c'est grâce, si tu veux, à la tranquillité d'esprit et à la disparition et de l'angoisse, etc., de cet environnement, que je commence à avoir la force et le regard pour réfléchir à l'arrêt de la consommation. Mais ça prendra encore un an avant d'arriver jusqu'à la fameuse soirée dont tu parlais, où là, c'est vraiment le déclic, quoi.
Ce déclic, il arrive vraiment parce qu'on t'a drogué à ton insu.
C'est ça, ouais.
Mais c'est pas par rapport à tes consos à toi, en fait. C'est ça qui est fou.
Non, c'est parce que c'est encore un schéma qui se répète. C'est-à-dire que je me mets en position de danger avec des personnes qui n'en valent pas la peine.
Ah,
quoi.
Oui.
Et donc, comme je connais déjà ce schéma et ma capacité à me mettre en danger avec des personnes qui n'en valent pas la peine, là, c'est plus avec des filles ou c'est plus avec ma maman, c'est avec d'autres personnes qui peuvent être même des mecs, mais avec qui il n'y a pas de relation autre que sociale. Quoi.
En fait, c'est parce que tu t'es senti manipulée et ça t'a...
Bah oui, voilà.
Ça t'a rappelé aussi. Exactement. Toute cette manipulation.
En fait, je me suis vu en situation de vulnérabilité et je me suis dit, mais quand tu bois et que tu prends de la coke, en fait, t'as plus aucun filtre et t'es attaquable, quoi, tu vois. Et c'est ça le cœur du truc qui... ça a touché à la fois mon ego et à la fois mon instinct de survie. En fait, la dernière chose qui te met en danger aujourd'hui, c'est la consommation. Mmh. Et donc, comme je m'étais déjà sorti de la grosse merde familiale, je me suis dit, mais ces gens-là, c'est fini, quoi. Plus jamais ils auront le droit, enfin, plus jamais je vais laisser quelqu'un avoir la capacité de m'attaquer comme ça. Et c'est ça, l'élan. C'est à ce moment-là que je tape du fond dans le pied de la piscine pour remonter la tête hors de l'eau.
Parce que c'est ça qu'on dit à chaque fois, tous les addicts,
ouais.
Ils disent, c'est pas un déclic ou le... Il n'y a pas quelque chose forcément qui soit... Mais il y a toujours ce moment-là où on touche le fond. Et en fait, quand on touche le fond, on donne un essor, en fait. On est obligé de remonter. Il y a bien un moment, et souvent on te dit, c'est quand le fond. Bah, le fond, c'est quand tu arrêtes de creuser, il paraît.
Ouais.
et tu dis que c'est pas tant d'arrêter qui a été le plus difficile. C'est ce qui a été le plus difficile, c'est de comprendre pourquoi t'en prenais.
Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, l'addiction, c'était quand même pas joli, c'était quand même compliqué. Enfin, voilà, tu sais, mais ça comporte tout un tas de choses qui sont difficiles à vivre et de douleurs. Mais à côté de des histoires familiales, il y a, tu vois, c'est je crois que c'est la fenêtre d'Overton. C'est quand t'as un truc énorme et qui est dégueulasse, tu mets un truc dégueulasse mais pas énorme à côté, bah il passe, tu vois, il passe tranquille. Donc pour moi, l'addiction, c'était plus facile que...
Ce que tu avais à vivre, je sais pas.
Ouais, clairement. Parce que se déchirer de la relation mère-fils, d'une ultra-dépendance affective avec sa maman, c'est tu dois être capable, en fait, d'arracher une partie de ton identité pour te sauver la vie. Donc, t'es dans ce truc de ce paradoxe je dois me sauver, mais en même temps, je dois me tuer pour pouvoir me sauver. Tu vois, c'est vraiment la sensation de
mourir à soi-même.
C'est ça. En fait, c'est parce que ces gens, enfin, ces gens, ils ont une partie de ton âme à l'intérieur. Tu fusionnes avec eux. Des fois, l'image que je donne, c'est un peu comme Harry Potter et Voldemort, tu vois, c'est pas quelque chose de physique, mais il y a une connexion, en fait. Il y a une espèce de contrôle.
Imbrication.
Exactement. Et donc oui, c'était plus facile pour moi, toute proportion gardée, de sortir de la cocaïne, même si j'en ai clairement chié aussi, quoi.
T'en as chié, c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que tu as plus souffert de l'arrêt du cannabis, par exemple, de la façon dont tu le décris, le sevrage. Je comprends parce que la cocaïne, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un sevrage physique. L'alcool, bah non plus, parce qu'à moins de boire des litres par jour depuis des années, je pense qu'on ne l'a pas. Mais par contre, la nicotine, déjà,
ouais.
Plus la nicotine, ouais. Qu'il y a dans les pétards, en fait, ou le cannabis.
Moi, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, 18-19 ans, je vendais du cannabis. Donc, je traînais avec des gens qui en vendaient. Mm-hmm. Donc, du coup, ma voiture servait à faire des allers-retours, etc. Donc, puis ça payait les consos de l'époque, tu vois. Et le truc, c'est qu'on allait la chercher en Hollande, là où elle est hyper forte. Et là où c'est, tu vois, ce qu'on appelle dans le jargon, ça va être de la frappe, tu vois. C'est des trucs où ils rajoutent des produits, où ils mettent de la laque dessus, etc. On n'est pas sur la petite herbe qu'on cultive dans son jardin ou dans son appart. Et le problème, c'est que tout ce mélange de produits chimiques qu'il y a dessus fait qu'on... Enfin, c'est fait pour nous rendre plus addicts aussi, quoi. Donc moi, j'ai vécu un sevrage, peut-être pas que de la molécule du cannabis, mais aussi toute la merde qu'il y avait dessus. Parce
ah
que
oui.
C'est un truc qu'on oublie de dire quand on parle du cannabis, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui fument vraiment du cannabis, mais qui fument du cannabis amélioré, parce que les gens ont besoin de trucs qui tapent de plus en plus fort et donc du coup c'est pour ça que moi j'ai mal vécu le sevrage au cannabis avec 2 semaines de cauchemars, d'angoisse, de sueur, enfin vraiment c'était horrible et j'ai jamais reconnu, enfin j'ai jamais revécu ça après ni avec la cocaïne et là je suis toujours dépendant, on va dire, à la nicotine, mais je sais que si j'arrête je vivrai pas ça, quoi.
Et donc, tu as dû regarder en face, en fait, les violences et les maltraitances. Et surtout, l'amour, toi, que tu as pour une mère, quand même. Tu as de l'amour, en fait, pour quelqu'un qui te... Je ne connais pas bien, j'ai l'impression que c'est pour toi le vrai danger de ta vie, au-delà des drogues, c'est ces relations toxiques.
Ouais, à l'époque, ouais, c'est ça. C'est comme je dis, tout se ressemble, en fait. Tu vois, l'attrait, la dépendance affective, le fait de... T'es pas capable d'être seul, donc tu vas vers des gens, quitte à aller vers des gens qui sont méchants ou mauvais pour toi. Et tu sais pas gérer une émotion et tu te tournes vers un produit où tu vois pour le il y a vraiment un système de d'état et de réponse et d'utilisation de quelque chose en réponse à ça mais
comment tu dénoues tout ça en fait parce que on avait reçu un thérapeute qui s'appelle Melchior Capitolin qui lui a vécu vraiment une vie terrible et une enfance dans le mensonge horrible. Il a écrit un livre qui s'appelle Brise le silence et il a une phrase, il a repris une phrase de Sartre, je crois, améliorée par un thérapeute d'ailleurs, qui dit « Je suis ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi ». Et en fait, donc ils ont fait quelque chose de toi. Comment est-ce que toi, tu transformes le truc en faisant quelque chose de ce qu'ils ont fait eux, à partir de là? Donc c'est l'écriture déjà, en premier, c'est quoi qui transforme le truc?
J'ai pas encore la réponse de ce truc-là. Tu vois, c'est un mélange de conscience et du cerveau qui tourne, qui remet les choses en place, et d'intuition et de pulsion de vie, et de lecture, et de... Tu vois, c'est vraiment c'est un mélange. Si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé, quoi, je pense. Vraiment.
C'est presque un miracle.
Ouais, oui, peut-être, je sais pas. En tout cas, le sentiment de parfois d'être une exception autour de moi quand je vois d'autres addicts, etc., ça certainement. C'est pas évident à vivre d'ailleurs, mais.
Mais parce que peut-être justement que dans ton cas, par rapport à d'autres addicts, parce qu'on va voir après que tu t'en es sorti, en effet, sans thérapeute, sans sevrage, sans des réunions de dépendants anonymes, que tu peux reboire, que tu peux prendre certaines drogues. Enfin bon, y a quand même deux, trois trucs que les addicts diront putain, mais c'est pas moi, quoi. Mais peut-être que le vrai sujet pour toi était celui du lien toxique et que tu as travaillé sur ça, quoi.
C'est ça. Oui, c'est clair qu'il y a certainement... et c'est cool parce qu'en parlant comme ça avec toi, c'est la première fois que je recentre un peu ce truc-là, même si j'en parle beaucoup et que ça fait partie de mon discours et de mon témoignage. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, ce que je dis, c'est... une fois que j'ai eu réglé le problème maman, ben ouais, mais c'est la réalité.
C'est fou.
Une fois que j'ai eu réglé ce problème-là, l'envie de me buter avec la coke, il s'en est allé, quoi. Tu vois, le jour où j'ai arrêté d'avoir cette douleur et le jour où j'ai accepté que j'ai fait mon deuil de cette personne, de mon vivant, et que je me suis dit « Ok, maintenant, j'avance dans la vie, quoi qu'il arrive », l'envie de me défoncer a disparu.
Tu dis que c'était le pire jour de ta vie quand tu t'es rendu compte de ça, quand même.
Bah, le jour où j'ai compris que ma mère était qui elle était, c'est compliqué pour les raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Et c'était aussi le plus beau
jour de ta vie
Bah oui, le plus beau jour parce que j'avais compris que c'était le début de la suite, quoi.
Bah, en fait, il faut savoir, c'est ce que disait Melchior justement, il faut savoir pour trouver la réponse. C'est-à-dire que les mensonges et la connaissance, en tout cas. Donc toi, c'est la psychologie, mais sans thérapeute. Donc c'est toi qui t'es auto-psychanalysé en écrivant.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est un truc qui fait partie de ma personnalité depuis toujours. Je me suis toujours posé des questions sur le monde qui m'entourait, sur moi, comment j'interagissais, etc. Donc en fait, j'ai peut-être des prédispositions comme ça à réfléchir à ça et à me focaliser là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi inconsciemment, parce que dans ma tête, je crois que le mot « pourquoi » avec le point d'interrogation est le truc qui a le plus tourné dans ma tête depuis que je suis né, tu vois. Tu sais, les paroles qu'on dit pas à voix haute, mais qui tournent dans la tête, c'est « mais putain, mais pourquoi ?»
Écoute, là, je te rejoins là-dessus, j'ai l'impression moi, j'ai souvent cette phrase qui me revient, mais pourquoi ? Et aussi, mais comment font... C'est une phrase de Goldman, en plus, pour Céline Dion. Mais comment font ces autres à qui tout réussit ?
Ouais.
Souvent, je regarde les autres, je me dis, mais comment ils font pour... Et je me rends compte que moi, je souffre à faire des choses que les autres vivent très bien, quoi. Et donc, je me demande toujours, pourquoi, moi, c'est si dur pour moi de faire ça ? Pourquoi si compliqué ? Pourquoi est-ce que quand je commence à boire un verre, eh ben, je finis la bouteille ? Pourquoi ?
Ouais.
Je vois ce pourquoi je l'ai depuis toujours aussi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et là, à ce moment-là, tu as commencé à mettre ça sur le papier, déjà.
Ouais.
Et ça a été thérapeutique comme une catharsis, c'est-à-dire que c'est sorti de toi, en fait.
Oui, oui. Ah, je prends l'expression qui m'est venue la première fois qu'on m'a posé la question, c'est j'ai dégueulé des mots, quoi. J'ai dégueulé du texte sur du papier, c'est sorti, mais en fait, ça sortait, ça s'arrêtait plus. Et c'est le moment où j'ai quitté la fameuse fille dont je parlais tout à l'heure, et j'étais dans un train à Montpellier-Bruxelles. J'avais pris la décision dans ma tête que j'allais la quitter. Le week-end s'était très mal passé. Je découvre des choses, etc. Hyper blessant, trahison, etc.
Donc beaucoup de trahison à chaque fois. Donc
oui,
c'est ça qui
voilà,
se répète.
Hein. Oui, oui, c'est des schémas qui se répètent.
En fait, la drogue, j'ai l'impression quelque part que tu rejouais l'insécurité que tu avais. Chez toi, quoi. En fait, c'est ça qui te manquait tout le long, c'est une sécurité, hein, une zone de sécurité autour de toi.
Ouais. C'est ce que je cherchais. C'est pour ça que je fonçais à tête baissée dans les relations avec les meufs, parce qu'il fallait qu'elles comblent un vide que je n'avais pas.
Et c'est fou qu'on retrouve toujours ce schéma quand on. Enfin, tous les psychanalystes le disent. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été battu, souvent. Alors, non seulement la personne, elle, va vers cette personne-là, mais l'autre aussi, elle a un profil. À devenir ascendante.
Oui, parce qu'on est deux hein, dans une relation d'emprise.
Elle, par exemple, c'est quelqu'un qui avait peut-être aussi ce souci-là.
Oui, enfin, j'étais que avec des meufs déséquilibrées, c'est sûr. Non, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, moi, je l'étais, mais à l'époque, elle l'était aussi. Et si elles n'ont pas travaillé sur elles comme moi je l'ai fait, elles doivent toujours l'être. Mais oui, oui, il y avait ce truc. Et des fois. Pour que les gens ne culpabilisent pas s'ils sont dans des situations comme ça d'emprise, tant qu'on ne sait pas, on n'est pas responsable. C'est comme la drogue, tant qu'on n'est pas au courant qu'on est addict et qu'on n'a pas pris conscience, ce n'est pas de notre faute, quoi. C'est pas parce que tu sais que ton mari est comme il est, qu'il te bat, etc., et qu'il est mauvais pour toi. Moi, ce n'est pas parce que je savais que ma mère était mauvaise pour moi que j'avais la capacité de m'en défaire. C'est là où on revient, on refait tu vois, on recolle les morceaux avec le mécanisme de l'addiction.
Savoir n'est pas pouvoir.
Faut pas culpabiliser non plus, mais par contre, le jour où tu sais, le jour où t'as la force, tu peux prendre la responsabilité de te dire, ok, quelle est la solution, quoi. La solution pour un alcoolique, c'est d'arrêter de boire. Moi, pour survivre, la solution, c'était de couper les ponts avec ma maman. Donc, ça a été un sevrage, comme si c'était un sevrage de drogue, mais avec ma mère, quoi.
Wow. Et c'est encore le cas aujourd'hui?
On n'a plus de contact. Hein,
Plus de contact.
Ah ouais, non. On n'a plus de contact depuis le jour où j'ai mis ce fameux rideau de fer et c'était en 2018, je crois. Ouais, 2018. Un an avant que j'arrête. Ouais.
En fait, oui, ça ressemble aussi à qu'on doit arrêter quelque chose. Il y a déjà cette capitulation face au produit, donc capituler face à une relation toxique avec une personne ou une drogue. Mais après, comme tu l'as très bien dit, c'est pas un truc, c'est pas juste une chose, c'est plein de choses, et c'est pour ça qu'il faut commencer à agir. L'addict est condamné à être dans l'action quand même. Ouais. On ne peut pas se laisser submerger par des émotions, quand on sent qu'on retourne dans des schémas délétères du passé, on a tellement travaillé sur nous qu'on commence à les voir, heureusement.
Oui.
Et on peut contourner des choses comme ça. Mais je trouve que ça revient vite quand on arrête de bosser.
Je te rejoins totalement. L'été passé... Je refréquente, on va dire, des filles dans le cadre de dates, comme plein de gens peuvent le faire, et d'avoir des dates, etc. Je sais où je vais, je sais où je mets les pieds, et je ressens maintenant les accroches, je sais qui me convient, qui me convient pas, etc. Mais il y a quand même ce truc de... on aime quand même bien quand ça pique un peu, tu vois. mais c'est vrai. J'ai plus ça avec les drogues et les substances, mais c'est vrai que sur le rétablissement de la relation homme-femme, je vois où sont encore les choses. Et par contre, tu me posais la question tout à l'heure si j'avais fait des thérapies et compagnie pour la partie drogue. Non. Mais là, par contre, je suis en train de chercher à me faire accompagner pour aller résoudre les dernières choses que j'ai pas réussi à faire solo parce que déjà le contexte c'est différent, je vais être des moyens pour pouvoir me faire accompagner, j'ai une certaine stabilité, du recul, donc maintenant parce que c'est j'avais atteint un certain niveau, mais je vais aller plus loin aujourd'hui sur cette partie-là.
Et c'était quoi ta vie dans la conso? C'était donc j'ai dit parce que je l'ai lu sur tes pages de profil LinkedIn, je
LinkedIn,
crois.
LinkedIn, ouais, c'est
alors,
ça.
J'ai vu donc cette histoire de conso de 3 grammes et de 2 bouteilles de rhum en 48 heures.
Ouais.
Est-ce que c'est souvent, tout le temps, c'est combien d'années comme ça?
Ben, ça a été, y a eu des paliers, en fait, tu vois. Ça commence les 3-4 premiers mois avec on achète un gramme, on le partage à deux, et moi, le demi-gramme que j'ai, je le garde pour deux, la semaine d'après. 2-3 soirées. Et puis après, c'est bon, écoute, aujourd'hui, désolé, mais on va pas le partager parce que j'ai une soirée la semaine prochaine. Et en fait, tu le gardes parce que tu as envie d'en avoir tout le temps sur toi, tu vois. Et puis ça avance comme ça. Et puis, c'est de plus en plus. Après, c'est pendant très longtemps, j'ai jamais dépassé un par soirée. Pendant un an ou deux, ça dépassait pas un par soirée que je partageais, etc. Donc, je veux dire, en quantité, c'était pas énorme. Mais j'avais quand même le produit dans la tête et il fallait quand même que tu vois, j'étais quand même absorbé par le truc. Et puis après, il y a eu le palier de c'est un pour le début de soirée, puis il en faut un pour l'après-soirée. Puis j'ai découvert les afters, et puis les week-ends de 48 heures, et puis de 72 heures. Et donc là, bah, tu vois, c'est 1, 2, 3. Ça m'est arrivé d'en acheter par 5 parce que ça coûtait moins cher. Enfin bref, je sais pas, j'ai un peu fait tout, tout classique.
Dans mon livre, je le dis, dans Kérosène, oui. Je dis j'en achetais par 5 grammes, ça coûtait moins cher.
Ouais, j'ai vu d'ailleurs ici, toi, tu l'as payé cher, 70 balles le gramme. En Belgique, moi, j'étais toujours aux alentours de 50. C'était pas un gramme précis dans le truc. Ça dépend avec chez qui t'allais l'acheter, mais c'est globalement moins cher en Belgique qu'en France.
Ah, ok. Ouais.
Et bon, plus que probablement moins cher en Belgique qu'à Paris tout court, quoi.
Oui. Ouais. Bah oui. Et tu prenais aussi d'autres drogues en même temps que la coke ou t'aimais vraiment la coke seule?
Bah, l'alcool, oui, enfin, c'est une drogue, ouais. Faut pas l'oublier, quoi. Mais l'Exta, elle venait pour les pilules, ça pareil, en termes de prix, de qualité. Enfin, la Belgique, c'est pas une bonne chose, hein, mais bon, voilà, quitte à prendre des trucs autant qu'ils soient bons, quoi. Exta, pilule d'Exta, MDMA, je prends ça surtout pour les soirées musicales, quoi. Parce que, bah, voilà, c'est pas pour en faire la pub, mais il y a des côtés très très nocifs et des descentes qui sont horribles à vivre, mais dans le moment présent, ça apporte des effets qui, sur certaines personnes, peuvent faire plaisir, quoi. On va kiffer le produit. Donc, moi, c'est comme ça. J'avais une relation, on va dire, avec la MDMA qui n'était pas pareille qu'avec la cocaïne, parce que tu peux pas te défacer, tu peux, mais moi, je voulais pas m'assommer avec l'Exta. Moi, je voulais ressentir, tu sais, ce moment où tout le monde aime tout le monde.
Exta, les câlins, MDMA, c'est pareil?
La molécule, c'est la MDMA. L'ecstasy, c'est plutôt la pilule, on va dire. D'accord. Si vous appelez ça les TAS, ouais. Nous, on appelle ça un Exta, une ecstasy. Ouais.
Mais c'est de la MDMA.
Oui, c'est le principe actif, c'est de la MDMA dedans. Ouais.
D'accord. Parce que moi, c'était pas du tout mon truc. Justement, j'avais. Je crois que la cocaïne, pour moi, c'était vraiment une façon d'avoir le contrôle et de tenir l'alcool plus longtemps. Parce que tu parlais d'after. Les gens qui connaissent pas ces addictions graves à la cocaïne qui te fait durer pendant 48 heures, l'after, il y a rien de plus sale en vrai. Parce que c'est plus du tout l'after show d'un concert. Il est 23 heures, tout le monde boit une petite coupette, en fait. Là, c'est les chevronnés de la défonce qui sont restés. Les autres, ils sont en train de dormir. Et nous, on voit le soleil se lever avec des verres d'alcool forts et encore en train de faire des traits et des traits alors qu'il est 6h, 7h, 8h, midi.
14,
c'est
15
ça,
heures,
l'after.
18 heures.
Ouais, l'after, c'est ça, quoi. Il n'y a rien de festif du tout là-dedans.
Non.
C'est genre des gens qui ne veulent pas rentrer.
C'est exactement ça. Et tous des gens qui mentent à leurs copines, leurs copains, au boulot, je serai en retard, je serai pas là. Ou non, mais t'inquiète, j'ai dormi là-bas. Enfin, ouais, c'est ce truc, je crois que t'en parles aussi un peu dans ton bouquin. Mais, le nombre de mecs qui cachaient la consommation à leur nana et qui racontaient, enfin, ils passaient autant de temps à boire qu'à mentir ou à s'arranger avec leur nana pour pas qu'ils se fassent gauler, tu vois. Donc, il y a ce truc de. Ouais, ça devient glauque. Parce que ça n'a plus aucun sens, en fait.
Tu dis, l'addiction n'est pas un choix, un échec moral ou un manquement éthique. Ce n'est pas non plus un manque de caractère ni un manque de volonté, pas non plus une maladie mentale héréditaire. Est-ce que pour toi, ce n'est pas une maladie du tout ?
Ou est-ce que ça en est une?
Ah, si, c'est une maladie. Ce que je veux dire par ça n'est pas une maladie mentale héréditaire, c'est-à-dire, c'est pas parce que ton père ou ta mère est addict que toi tu vas l'être.
D'accord. Mais c'est une maladie.
Ah oui, évidemment.
Alors, comment tu expliques, par exemple, que toi, et peut-être d'autres que je ne connais pas, en tout cas, à chaque fois que j'ai voulu mesurer, moi, à l'alcool ou à la drogue, ça a été une défaite cuisante pour moi. Ça n'empêche pas que les addicts, souvent, reviennent à la charge en disant non, mais là, c'est sûr, maintenant, je peux, j'ai compris, je sais pourquoi. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait qui finalement pouvait consommer ou boire, qu'il n'avait plus de problème avec ça, alors qu'il en a eu.
Bah, déjà, la cocaïne, j'en prends plus.
D'accord.
J'en prends plus parce que j'en ai pas envie. Et parce que la dernière fois, le jour où j'ai compris que moi, j'étais sorti de l'addiction, c'est en reconsommant après 3 ans d'abstinence. Donc, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant.
Donc, tu as vu qu'on a quand même toujours envie d'aller se confronter au truc, de voir où on en est.
Bah oui, à l'époque, il fallait que je voie où j'en étais parce que je revenais de 3 ans.
Mais c'est dangereux de voir où on en est.
Ouais, mais à l'époque, c'était pas je vais tester, ça s'est fait comme ça en fait.
Ouais, je sais, je connais. Ouais, non, mais c'est fou qu'on soit nombreux à faire ça alors qu'on sait qu'on a failli crever, on avait y rester et que ça nous fasse pas aussi peur.
Ouais, non.
C'est ça que je trouve fou, moi.
Si on avait peur du produit, on n'en aurait pas pris
autant. Oui, t'as raison. Voilà, merci. C'était la réponse que je voulais.
Non, mais c'est vrai. Et le truc, c'est que ouais, j'ai compris en reprenant que c'était fini, avec cette sensation que si je voulais, je pourrais en reprendre une fois sans retomber le lendemain dans l'addiction. Mais j'ai plus envie de me mettre dans des états comme ça, tu vois. En reprenant là 3-4 fois sur l'espace de 4-5 semaines là, en 2022, j'ai compris que j'étais plus à ma place. J'étais en dissonance cognitive avec les gens et avec la consommation et avec la molécule elle-même. J'avais toujours toutes les habitudes de la consommation, mais j'avais plus rien à foutre là, quoi. Et en plus de ça, c'était un rappel de... j'avais des guignols autour de moi, des gens qui... Ah, des guignols, je veux pas faire de jugement de valeur.
On l'était nous aussi, on l'est quand on consomme comme
évidemment,
ça.
Évidemment, mais sauf que moi, je l'étais plus, tu vois. Ouais. Donc à l'époque, on l'était tous ensemble et moi, je reviens, je suis plus un guignol et eux le sont toujours. Donc c'est, comme je dis, c'est pas un jugement de valeur par rapport à eux. C'est moi qui ai besoin de remettre cette distance entre eux et moi. Et rien de personnel, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça m'arrive. Ça, en fait, comme je l'explique dans un des épisodes de podcast, ma relation avec la drogue de l'amour, c'est parce que pendant ces 3-4 années, j'ai pas touché à la cocaïne, mais par contre, il y a des moments où j'avais quand même besoin d'avoir ces sas de décompression et de me vider l'esprit, de me vider la tête et de remettre mes émotions à zéro. Ce que l'alcool et un petit peu d'MDMA, ça avait cet effet-là sur moi. Et donc là, maintenant, je me considère comme sorti de l'addiction à la cocaïne. Je n'ai plus d'addiction, hormis la nicotine, qui est une dépendance physique, peut-être un peu psychologique, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec, avec les autres. Si je reprends de la MDMA, c'est avec un recul sur la consommation, avec une réduction des risques, avec je prends autant cette soirée et je ne prends pas plus. Et c'est parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de ne pas déroger à cette règle-là, que je me suis dit, OK, ce n'est pas parfait, c'est mieux de ne pas y toucher, mais j'ai d'une certaine manière aussi progressé sur ce rapport-là avec la consommation. Et pour être honnête, là, j'en ai pas pris depuis l'été, j'y pense plus, je me dis pas, tiens, quelle va être la prochaine soirée, tu vois. C'est juste que j'avais besoin d'être aussi honnête avec la communauté et l'audience et de dire, oui, je suis sorti de l'addiction à la cocaïne, mais voilà aussi les vraies coulisses et ce que des fois des autres pourraient peut-être pas vous dire, quoi.
Et tu parles des plans pour t'évader de l'emprise et de la drogue. Donc les deux, tu les mets ensemble, hein, l'emprise et la drogue. Ouais. Ces plans d'évasion, moi, je considère que c'est tes contre-addictions. Donc tu les donnes, elles sont au nombre de 5, en tout cas dans tes notes. Est-ce qu'il y en a des nouvelles? Est-ce que tu peux nous rappeler ces contre-addictions, ces plans-là pour s'évader? Je pense que les témoignages, c'est ça, ont déjà été... Ça, je te rejoins tout à fait, c'est-à-dire que ça peut être très long. On ne va pas sortir comme ça du jour au lendemain, mais c'est des petites prises de conscience et c'est des graines qui germent lentement.
Exact. Ça, les témoignages, j'en ai consommé beaucoup.
Tu consommes, tu vois, tu parles comme un addict même de témoignages, c'est bien.
Oui, non, mais parce que...
On consomme du témoignage. C'était... Moi, j'ai toujours un témoignage dans l'oreille, mais tout le temps.
Oui, mais pareil. Et c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui.
Ouais. C'est pour ça que je fais ces podcasts, c'est parce que j'en écoute à peu près 20 par jour.
Ouais. Donc, tu comprends. Ouais, et puis le sport pour reprendre... le sport pour reprendre confiance en mon corps et visualiser dans ma chair que j'étais capable d'atteindre des objectifs et de me développer et d'avancer. Tu vois, ça a été super important. important.
T'en as fait beaucoup là en plus, toi.
Oui, beaucoup, mais pas de manière excessive. C'est-à-dire que j'en faisais beaucoup, mais ça a mis 5-6 mois crescendo à augmenter le rythme. Parce que j'avais une notion de performance et de progression, de faire du vélo 30 minutes par jour les premiers jours. Et puis je montais jusqu'à 1h30 de vélo par jour et des balades de 50, 60, 70 km le week-end. Mais j'ai pas fait ça du jour au lendemain, tu vois. C'était vraiment tout le process d'apprendre à aller plus loin la semaine d'après et aussi d'arrêter à ce moment-là de fumer et de boire et de sortir, parce que si jamais je sortais, je savais que la semaine d'après, je redémarrais pas à zéro, mais je pouvais pas refaire la performance de la semaine d'avant. Donc ça m'a super bien aidé, ça a été ma carotte, tu vois, donc les témoignages, la carotte et le bâton avec le sport, et puis la lecture et tout l'aspect compréhension, prendre des notes, écrire. J'ai beaucoup ouvert des bouquins et accroché mon vécu à de la théorie, tu vois. Donc la théorie est dans le livre, bah ok, j'écris sur ce que j'ai vécu et j'intègre la théorie dans le truc. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de quoi faire deux bouquins sur ça, pas juste mon histoire, mais sur toute la théorie que j'ai imbriquée dedans. Donc sport, lecture.
Et tu vas voir, ça évolue. En tout cas, moi, je me rends compte, en ayant fini le livre là, de Contradiction, je me rends compte que j'ai galéré à l'écrire parce que tout au long de même en quelques mois seulement, hein, j'avais vraiment des pensées qui fluctuaient, une évolution de mon raisonnement. Et puis parfois, j'étais beaucoup plus attachée à la philo, parfois plus à la psycho, parfois c'était le yoga. Et donc, j'avais des clés, mais pas vraiment. Et parfois, j'étais sûre que je ne pourrais plus jamais consommer. Et parfois, je pensais que je pouvais consommer. Je trouve qu'on s'accroche à des choses, c'est comme des barques. Et à un moment donné, cette barque aussi, elle coule et il faut en prendre une autre, quoi. Et l'addict passe de branche en branche, comme ça, un peu. L'écriture, donc c'est hyper important. Il y a la musique aussi.
Oui, c'est la musique. C'est bizarre pour un mec comme moi de dire la musique parce que j'ai jamais vraiment. Enfin, si, la musique, oui, mais pas la musique avec paroles, tu vois. La chanson française, la pop, etc. J'ai entendu de la musique, mais je ne l'ai pas écoutée. Et j'ai commencé à en écouter à ce moment-là, tu vois, à écouter les paroles, à me poser des questions. Tiens, pourquoi est-ce que le rap est autant écouté? Tiens, je me suis vu, pour la première fois de ma vie, m'autoriser à apprécier des chansons qu'en fait, je ne m'autorisais pas à apprécier parce que j'avais peur que quelqu'un peut-être se foute de ma gueule parce que j'aimais ces chansons-là.
Parce que là, tu parles des Kids United.
Ouais, c'est ça.
C'est
mais
ça,
tu vois,
ce sont des enfants.
Oui, mais ça, voilà, mais c'est... Enfin oui, mais même de la chanson de la chanson française qui va plus avoir une connotation
romantique,
féminine, etc.
Un peu.
Exactement. Tout ce qui touche autour des émotions et qui a priori n'est pas de la musique pour garçons ou en tout cas pour l'image de l'homme qu'on se fait. J'ai commencé à accepter en fait que j'aimais ce genre de musique et ça m'a beaucoup réconforté. Ouais.
Et aujourd'hui, tu vois les choses comment ? D'après toi, tu m'as dit tout à l'heure en off que tu ne te sentais pas en danger.
Ouais.
Donc, il faut faire attention à ça, parce que quand on ne se sent pas en danger, souvent, c'est là que ça craint. Mais...
Après, non, je ne me fous pas le nez dans la merde non plus, voilà. ni dans la poudre. Mais
non, mais il ne faut pas oublier d'où on vient, mais je pense, pour ne pas y retourner, c'est ça.
J'ai des doses de rappel,
voilà.
T'inquiète.
Hein. Voilà.
J'ai des doses de rappel, il y a des moments où j'ai plus envie d'aller boire un verre, je l'évite, enfin, j'ai encore des doses, j'ai un cerveau d'addict, hein. Je suis sorti de l'addiction, mais j'ai un cerveau d'addict et mon quotidien me le rappelle.
En fait, on est addict, mais on peut juste être un addict qui ne consomme pas, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis...
Mais ça se répercute sur d'autres choses, quand même.
Oui, je pense.
De moins en moins.
Je pense de moins en moins, et pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir travaillé le gros morceau, tu vois, moi j'ai un point en moins en fait. Et c'est ça que je remarque qui est un peu sous-jacent chez certaines personnes, c'est qu'en fait, soit c'est pas le bon moment, soit on n'a pas encore les outils, c'est pas la bonne fenêtre de temps pour assimiler des choses que notre esprit veut pas voir, tu vois. Et moi, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai beaucoup avec des addicts qui restent bloqués ou qui n'arrivent pas à avancer. Et quand je les vois en opposition à moi, je me dis, ok, en fait, c'était tellement compliqué, moi, de traverser cette réalisation par rapport à ce problème précis que j'ai beaucoup de compassion pour d'autres personnes qui... pour qui c'est pas encore le moment ou qui ont pas encore trouvé les outils pour traverser ça.
C'est important ça de parler du moment.
Ouais.
Parce que c'est pas que quelqu'un va y arriver ou va pas y arriver, ça dépend du moment.
C'est ça, c'est son moment à lui et donc je pense, enfin si je devais mettre sur papier un début d'hypothèse de ma vision de l'addiction et de comment on pourra en sortir, c'est y a cet aspect de temporalité, mais aussi des ressources, quoi, qu'elles soient internes ou externes, c'est-à-dire cette capacité à comprendre dans sa chair les raisons, mais pas spécialement pointer du doigt des gens, mais les raisons, les mécanismes internes, tu vois, et les accepter. Et j'ai pas participé aux réunions ni des narcotiques ou des autres groupes de parole, mais il y a ce truc de ne plus se mentir à soi-même, d'accepter. Et je pense que c'est l'étape la plus difficile, qu'on peut des fois faire 50% du travail et penser que, ok, j'ai accepté que j'étais addict, donc on avance. Mais moi, le truc où je sens que ça a fait la différence, c'est qu'il n'y a pas une seule partie de moi où je suis dans le déni. Pas une seule partie de moi où j'ai pas accepté, et que ce soit mes faiblesses, la honte, les difficultés que je peux rencontrer, etc. Et je crois qu'il y a là quelque chose à creuser, de mon point de vue, évidemment, sur la capacité de l'esprit humain à vraiment tout mettre sur la table, et puis après à reconstruire dessus, tu vois. Si je devais donner une intuition, une hypothèse, je partirais là-dessus.
Bah, ça me donne envie de finir sur cette citation de Nietzsche qui dit « Tu ne peux pas construire un temple sans en détruire un ». Non, mais voilà, parce que tout ce que tu dis là, c'est très philosophique, parce que ça vient aussi de la philosophie de Spinoza, dont on parle beaucoup ici.
Ouais, tu m'as donné envie de lire d'ailleurs avec ton bouquin certains trucs. Ouais.
Bah oui, parce qu'il faut, selon lui, et puis selon les meilleurs, hein, il faut comprendre ce qui nous pousse à agir pour pouvoir agir dessus. Voilà, c'est pas compliqué, il faut mettre de la lumière sur les parts d'ombre. Et par contre, je pense que ce qui est le plus difficile et que tu as réussi à faire, je crois que c'est ça qui mène vers la guérison. C'est l'honnêteté envers soi-même.
Ouais,
c'est parfois, on ne fait pas exprès. Hein, on pense qu'on est honnête, mais on ne l'est pas, tu vois. Mais je pense que là, je ne te connaissais pas.
Ouais.
Je doutais, tu vois, quand même, parce que moi, un addict qui peut boire, je suis assez toujours... Mais en t'écoutant, je me dis que ton honnêteté, peut-être, c'est ça qui a payé.
Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, en tout cas. Oui, voilà. C'est une honnêteté naturelle, quoi. Je peux comprendre qu'on... On a cet a priori en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Ben non, en fait, j'explique tout de A à Z.
Non, je voulais comprendre. Ouais, je voulais comprendre, c'est ça. Ouais. Ben voilà, moi, je trouve que c'est une bonne fin, ça, pour cet épisode et pour les gens qui nous écoutent, de savoir que déjà, on peut commencer par se déshabiller, enlever couche par couche le superflu, parce qu'en fait, malheureusement, dans la vie, on ne fait qu'avancer, se mettre des couches et des couches, souvent des masques.
J'appelle ça des tapis, moi.
Voilà.
Tu vois, il y a un petit caillou, on met une vingtaine de tapis pour essayer de, tu vois,
le caillou,
résorber.
Il est toujours là.
Et tu arrives à avoir 30 et 50 balais, et en fait, tu as l'arsenal, alcool, médicaments, dépression, tout ça, parce que le petit caillou, on n'est pas allé l'enlever.
On n'a pas été l'enlever.
Ouais.
Et ben, merci beaucoup, Gabriel.
Merci à toi.
Je suis contente d'avoir eu ton expérience. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDEC anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradictions.